Bienvenidos a este informativo de Radio France.
Edition of Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Adrien Delgrange.
Bonsoir, bonsoir à tous, où que vous soyez sur la planète. Bienvenue dans Accent du monde.
RFI.
Votre radio, dans toute sa richesse et sa diversité, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir, avec nous, Lucia Musel, de la rédaction en brésilien.
Boa noite.
Alireza Manavzadeh, de la rédaction en persan.
Durud bashuma.
Et Ania Stroganova, de la rédaction russe.
Dobry vecher.
Ce qui nous intéresse pour commencer cette émission en direct de Paris, eh bien, ce sont les États-Unis, ou autrement dit, les grands électeurs américains qui se sont prononcés cette semaine et ont confirmé la victoire de Joe Biden, 46e président des États-Unis. Et au Brésil, Lucia, eh bien, cela représente la fin d'une vraie novella.
Ah oui, le gouvernement brésilien a cru jusqu'au dernier moment que Trump serait capable de renverser cette situation. Le président Jair Bolsonaro, enfin déclaré de Trump, a été un des derniers chefs d'État à féliciter Biden pour sa victoire et le dernier parmi les pays du G20. Donc Bolsonaro a cédé quelques heures après l'annonce du Congrès américain par un communiqué et bien sûr un tweet. Dans un message assez marqué idéologiquement, il a dit espérer que les États-Unis continueront d'être le pays de la liberté et la demeure du courage. Je vous rappelle que Bolsonaro a ouvertement supporté Donald Trump pendant la campagne électorale, fait rare dans la diplomatie en général, y compris la brésilienne. Ensuite, il a mis des jours à s'exprimer sur les résultats des urnes après l'élection en disant qu'il attendait la suite des recours judiciaires de Trump et l'annonce officielle de la victoire de Biden. Et tout ça pour une simple raison. Hein. Trump était un des seuls interlocuteurs de Bolsonaro sur la scène internationale.
Après le Brésil, en Iran, l'officialisation de l'élection de Joe Biden, Alireza, met fin à toutes les péripéties hein, qui ont suivi l'annonce de sa victoire. Les Iraniens s'impatientaient probablement. Alireza, cette victoire aura-t-elle des conséquences sur l'avenir de l'Iran?
Il est certain que le retour de la démocratie à la Maison-Blanche pourrait bénéficier au camp modéré auquel appartient le président actuel. Mais l'Iran se prépare à élire un nouveau président en mai prochain. Étant donné les obstacles déjà dressés par les conservateurs, à leur tête le guide suprême, il n'est pas certain que le camp favorable à un dialogue avec les États-Unis puisse l'emporter. Le retrait arbitraire de Trump de l'accord nucléaire de Vienne en mai 2018 et le rétablissement des sanctions américaines ont ruiné l'économie du pays. En signant cet accord, Hassan Rouhani, le président actuel, et son gouvernement avaient promis une relance de l'économie. Mais avec Trump, tout a mal tourné. Les conservateurs, toujours hostiles à tout accord avec les États-Unis, ont réussi à faire endosser la responsabilité de cet échec au président et au gouvernement actuel.
Et nous allons en reparler dans un instant. Nous terminons ce tour de table avec vous, Ania Stroganova. En Russie, Vladimir Poutine a lui félicité également son homologue américain Joe Biden. Le président russe a attendu l'annonce des résultats officiels pour adresser un télégramme de félicitations. Alors, pourquoi avoir patienté si longtemps?
Oui, Adrien, Vladimir Poutine, contrairement à la plupart de ses collègues occidentaux, a préféré attendre 6 semaines pour féliciter Joe Biden. Selon le Kremlin, c'était prématuré de s'exprimer avant que le résultat officiel ne soit publié. On y détecte une amertume des autorités russes quant au résultat de ces élections. Rappelons-nous, il y a 4 ans, ce même président russe n'a pas attendu les résultats officiels pour féliciter le prédécesseur de Biden, Donald Trump. On peut penser qu'il avait plus d'espoir à l'époque. Le Kremlin n'a jamais caché d'ailleurs sa préférence pour le candidat Donald Trump lors de ce scrutin en 2020. Par ailleurs, les autorités russes ont exprimé plusieurs fois leurs doutes sur la fiabilité du système électoral américain. Pour revenir au texte de ce télégramme symbolique adressé par Vladimir Poutine à son homologue, il reste très sobre. Il a souhaité au président élu le succès, exprimé sa conviction que la Russie et les États-Unis peuvent, malgré leurs désaccords, résoudre de nombreux problèmes et défis. Je suis pour ma part prêt à une collaboration et à des contacts avec vous, écrit Poutine à Biden, toujours très sobrement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que hier jeudi, lors de sa conférence de presse annuelle, Vladimir Poutine a également parlé de ses attentes. Attentes quant à la nouvelle administration américaine.
Oui, et toujours en restant très sobre, Poutine a indiqué que Moscou espère résoudre le problème entre les deux pays. C'est la cour qui est derrière le roi, a déclaré le chef d'État russe. Pour lui, l'avenir des relations russo-américaines dépendra de ceux qui occuperont les postes clés dans la nouvelle administration américaine. D'autres responsables politiques russes, d'ailleurs, restent très prudents et souvent peu optimistes quant à l'avenir de ces relations, notamment parce que les membres de la nouvelle administration américaine ne leur inspirent pas confiance, à l'instar de Valentina Matviyenko, la présidente de la Chambre haute du Parlement russe.
На мой взгляд, обсуждать всерьез возможность полноценной нормализации в ближайшее время просто нет оснований.
Donc elle nous explique qu'on ne peut pas parler aujourd'hui sérieusement de la normalisation de relations entre la Russie et les États-Unis, surtout en prenant en compte le background de certains membres de la nouvelle équipe américaine. On ne peut parler que du départ à zéro, estime-t-elle. Il faut débuter avec un lancement des interactions minimum nécessaires du futur président américain. Les Russes attendent le plus important, dit-elle. Il doit se montrer responsable et de bonne volonté.
Et puis nous retiendrons, Ania, que Joe Biden a promis de se montrer ferme à l'égard de la Russie. Alors, comment les médias et les experts russes analysent-ils cette future relation bilatérale ?
L'image de Joe Biden dans les médias russes est assez négative. En même temps, l'inverse aurait été étonnant. Biden est souvent dépeint comme un vieillard faible qui ne va être qu'une sorte du dirigeant honorifique. Certains médias russes n'hésitent même pas à le traiter carrément de sénile. La relation entre Poutine et Biden risque de devenir la plus froide dans toute l'histoire des rapports entre les leaders de deux pays, prévient Dimitri Trenin, politologue et directeur du centre Carnegie à Moscou. Selon cet expert, la nouvelle ligne de conduite de Washington consisterait à renforcer la pression sur Moscou. Cette froideur que l'on pressent ne date pas d'aujourd'hui. Il y a 6 ans, Joe Biden, qui était à l'époque le vice-président des États-Unis, a révélé dans un entretien au New Yorker qu'au cours d'une entrevue avec Poutine en 2011, il a déclaré à ce dernier « Je vous regarde dans les yeux et je ne pense pas que vous ayez une âme. Il m'a regardé, m'a souri et m'a répondu « Nous nous comprenons », raconte Joe Biden. Et donc le politologue Dimitri Trenin, dont j'ai parlé à l'instant, considère que Biden va activement soutenir l'opposition et la société civile russe pour pointer du doigt des problèmes internes majeurs qui existent toujours en Russie, surtout la corruption ou la répression des droits de l'homme.
Ania Stroganova de la rédaction russe de Radio France Internationale. Côté Brésil, à présent, avec l'élection de Joe Biden, eh bien le président brésilien Jair Bolsonaro risque de se retrouver plus isolé que jamais, Lucia Musel.
C'est sûr que pour Bolsonaro et son gouvernement, c'est un énorme revers et le Brésil va s'enfoncer davantage dans cette position d'isolement. Le ministre brésilien des Affaires étrangères, un chrétien fervent, croit à ce concept de la guerre des civilisations. Donc poussé par toutes sortes d'idéologies complotistes, il a cherché dès le début à établir une alliance conditionnel avec les États-Unis. Cela a été fait au mépris de tous les autres partenaires du Brésil, un pays qui avait un dialogue assez diversifié partout dans le monde grâce à sa politique de non-ingérence externe.
Alors, que peut-on attendre des relations Brésil-États-Unis désormais?
Les spécialistes sont d'accord pour dire qu'en fin de compte, on reviendra à un rapport pragmatique entre les deux pays. Biden ne voudra pas forcément inviter Bolsonaro à la Maison-Blanche, comme d'ailleurs aucun autre leader occidental n'a fait jusqu'à présent, à part Trump, justement. Mais le futur président des États-Unis ne doit pas non plus repousser le Brésil, car la vérité, c'est que les deux pays sont d'importants partenaires commerciaux et cela doit compter plus que tout, a priori. Mais ça a une condition, attention, avec Biden, c'est la protection de l'environnement. Dans notre rédaction, nous avons interviewé le politologue Gaspar Estrada, spécialiste du Brésil à Sciences Po Paris. On l'écoute.
Si embora os assuntos internacionais foram, tiveram pouco espaço na campanha americana, Il
souligne que les relations internationales n'ont pas été vraiment abordées en profondeur pendant la campagne électorale américaine. Et à part la Chine, le seul pays qui a été cité lors des débats entre les deux candidats, c'était le Brésil, et pas pour une bonne raison. Joe Biden a prévenu que si le Brésil n'arrête pas avec la déforestation de l'Amazonie, il y aurait des conséquences économiques importantes. Et je vous rappelle que l'environnement est au cœur du programme du prochain président américain. Il souhaite voir son pays assumer un leadership dans ce domaine. Donc, pas question de laisser Bolsonaro faire n'importe quoi avec l'Amazonie.
Alors, dites-nous à présent si le gouvernement brésilien sera enfin sensible à cette pression internationale pour la protection des forêts.
Bah écoutez, c'est la question que tous les écologistes au moins se posent, et pas qu'au Brésil. Après le français Emmanuel Macron ou l'allemande Angela Merkel, ce sera le tour de Joe Biden d'accentuer cette pression. Une pression aussi qui vient d'ailleurs d'une bonne partie des producteurs agricoles brésiliens, il faut le dire. Beaucoup sont bien conscients des enjeux internationaux et savent parfaitement que le Brésil risque de perdre de plus en plus de marchés à cause de la déforestation illégale. Cependant, avec Bolsonaro, rien n'est gagné. Il est tout à fait capable de vouloir profiter de cette situation avec Biden pour renforcer son image en tant que nationaliste et ainsi renforcer aussi sa base électorale, et ça à moins de 2 ans des prochaines élections brésiliennes. On verra donc la suite.
Lucia Musel de la rédaction en brésilien, Alireza Manafzadeh de la rédaction en persan. Vous nous avez tout à l'heure expliqué les raisons de l'impopularité du gouvernement iranien actuel, mais aussi la crise que traverse ce pays, la pandémie de Covid dont l'Iran est une des principales victimes au Moyen-Orient, Alireza, a aggravé également la situation dans le pays.
Tout à fait. À tout cela s'ajoute la répression sanglante de plusieurs émeutes qui a fait que le camp soi-disant modéré perde de légitimité auprès de la population. Bien que la victoire de Biden ait été saluée par Rouhani, rien ne laisse pour l'instant croire que la nouvelle administration américaine s'entendra avec l'Iran sur tous les sujets épineux qui les opposent. Déjà, le 3 novembre dernier, le guide suprême tweetait « Peu importe qui remporte les élections 2020 des États-Unis, cela ne changera pas notre politique à l'égard de ce pays. Certains parlent de ce qui se passera si tel ou tel est élu. Oui, certains événements peuvent survenir, mais ils ne nous concernent pas. Notre politique est calculée et claire. Il a toujours répété que tous les dirigeants américains sont fondamentalement les mêmes. Je vous invite à écouter un court passage de son dernier discours à ce propos.
Vous avez vu que l'Amérique de Trump et l'Amérique d'Obama vous ont fait. Ce n'est pas seulement de Trump.
Il dit, vous avez vu ce que vous ont fait l'Amérique de Trump et l'Amérique d'Obama. Ce n'est pas seulement Trump qui vous a fait du mal. Et ne croyez pas qu'avec son départ, tout ira bien.
Alors, il dit peut-être la vérité, vu la quantité de désaccords entre les deux pays, l'Iran et les États-Unis, en tout cas avec Anthony Blinken comme nouveau secrétaire d'État. Il est peu probable que le dialogue entre eux s'engage rapidement.
Tout à fait. Quand Biden est élu, certains médias iraniens ont exprimé leur souhait de voir quelqu'un comme John Kerry occuper le poste de conseiller à la sécurité nationale. On se souvient qu'il était le chef de la diplomatie de son pays lors de la signature de l'accord de Vienne. Mais avec Anthony Blinken comme secrétaire d'État, les choses ne seront pas faciles. D'abord, il va peut-être se heurter à un gouvernement iranien plus rigide que le gouvernement de Rouhani. Si ce sont les conservateurs qui arrivent au pouvoir en mai prochain, ils vont sûrement exiger des concessions supplémentaires du côté américain. Ensuite, comme l'administration Biden souhaite élargir l'accord aux missiles balistiques iraniens, point qui est non négociable pour Téhéran et aussi à la présence iranienne dans la région, il est difficile d'envisager une quelconque négociation dans un avenir proche.
Vous écoutez Radio France Internationale, c'était Ali Reza Manavzadeh de la rédaction en persan.
20 degrés Paris.
Accent du monde. Adrien Delgrange.
Tout autre sujet à présent en Russie cette semaine. Nous avons beaucoup parlé d'une enquête, celle du site d'investigation Bellingcat. En partenariat avec d'autres médias, les journalistes de Bellingcat ont identifié plusieurs agents russes qui seraient derrière l'empoisonnement de l'opposant Alexei Navalny. C'est avec vous, Anya Stroganova.
Oui, Adrien, cette enquête a fait l'effet d'une bombe en Russie. Bellingcat, ainsi que le média d'investigation russe The Insider, le média allemand Der Spiegel et la chaîne américaine CNN ont publié une enquête majeure, très détaillée, très fournie. Les journalistes prouvent que depuis au moins trois ans, l'opposant russe Alexei Navalny est donc suivi lors de ses déplacements privés et politiques par au moins 8 agents des services secrets russes.
Привет, это Навальный. Я знаю, кто хотел меня убить. Я знаю, где они живут. Я знаю, где они работают. Я знаю их настоящие.
Donc c'est Alexei Navalny qui parle. Il dit qu'il sait qui a voulu le tuer. Il sait où ils vivent. Il sait où ils travaillent. Il connaît leur vrai nom. Il connaît leur faux nom. Il a leur photographie. Il propose de regarder la vidéo dont il est en train de parler. Et donc c'est une histoire d'un groupe secret de tueurs du FSB qui comprend les médecins, les chimistes qui ont essayé de l'assassiner à plusieurs reprises et ont tenté une fois de tuer sa femme, dit-il. Vous n'allez pas en entendre parler à la télé, surtout en prenant en compte le fait que c'est le président russe Vladimir Poutine en personne qui donne les ordres à ce groupe, affirme Navalny. Et donc, il raconte dans cette enquête qu'il publie sur son compte YouTube pourquoi Vladimir Poutine, selon lui, a voulu le tuer. Et ces résultats, où Alexei Navalny présente les résultats de l'enquête, a déjà été visionnée sur YouTube par plus de 13 millions de personnes.
Alors, de quoi s'agit-il précisément, Anya? Et puis surtout, d'abord, qui sont ces agents dont parle Alexei Navalny?
Ils sont pratiquement tous médecins, infirmiers ou chimistes qui travaillent pour un département secret du FSB, ex-KGB, qui a accès aux armes chimiques russes, alors que, rappelons-le, l'arsenal chimique russe est officiellement détruit depuis 2017. Tous ces agents suivaient quasiment tous les déplacements de Navalny depuis ces trois dernières années et rendaient les comptes aux généraux haut gradés du FSB. Dans ces circonstances-là, on ne peut pas donc imaginer que le patron des services secrets russes, Alexandre Bortnikov, n'était pas personnellement informé du déroulé de l'opération, ce qui permet à Alexei Navalny d'affirmer que Vladimir Poutine est commanditaire de cette tentative d'assassinat, car, nous dit Navalny, sans les ordres de Vladimir Poutine, une opération d'une telle ampleur ne serait pas possible. Autre chose improbable, parmi les trois agents qui ont suivi Navalny lors de son dernier déplacement, au mois d'août, quand il a été empoisonné, l'un habite dans le même immeuble que l'opposant.
Alors comment ont travaillé les enquêteurs pour obtenir toutes ces informations?
Là, c'est vraiment à la fois intéressant et désespérant quant à la protection des données en Russie. D'une part, il y a des données ouvertes qu'il suffit de savoir collecter, recouper et analyser. Mais d'autre part, on est face à un problème majeur en Russie, celui de la corruption. Tout se vend, tout s'achète, dont les bases de données. Une femme jalouse qui cherche à savoir qui a voyagé à côté de son époux lors d'une prétendue mission peut acheter tout ça sur un marché noir. Ainsi, les journalistes ont tout simplement acheté des listes des passagers et ont établi qui a pris l'avion avec Navalny ou parallèlement avec lui depuis ces dernières années. Pareil pour les relevés téléphoniques ou les données résidentielles. Dans le reportage du CNN, on voit d'ailleurs une scène assez surréaliste où la journaliste toque à la porte de l'un de ses agents du FSB. « Bonjour, c'est vous qui avez essayé d'empoisonner Alexei Navalny ?» Il lui claque la porte au nez, mais l'image reste là, pas très flatteuse pour le tout-puissant FSB.
Et puis enfin, Anya, est-ce que les autorités russes ont réagi à cette enquête ?
Oui, ils ont réagi, mais ils ont mis du temps. Cela prouve qu'ils étaient en train de préparer leur réponse et c'est finalement Vladimir Poutine qui l'a donnée ce jeudi lors de sa conférence de presse annuelle.
Теперь, что касается значит, этого пациента, значит, в Берлинской
Donc
клинике.
Là, c'est Vladimir Poutine qui nous parle du patient de la clinique berlinoise. Il dit que ce n'est pas une enquête, mais la légitimation de contenu préparé par les services spéciaux américains. Nous savons très bien que les services secrets américains suivent nos agents. Nos agents sont au courant de tout ça, dit Poutine. Et selon lui, cela veut dire que le patient de la clinique berlinoise, comme il l'appelle Navalny, doit être surveillé par les services spéciaux russes, car il a le soutien des services spéciaux américains. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait l'empoisonner. Qui aurait besoin de ça? Donc là, on l'entend ricaner parce que Poutine explique que si on l'avait voulu, l'affaire aurait été menée à son terme.
Merci beaucoup, Anya Stroganova de la rédaction russe dans Accent du Monde. Samedi dernier, la République islamique d'Iran a exécuté l'opposant Ruhollah Zam 4 jours après la confirmation de sa condamnation à peine de mort par la Cour suprême. Il a été pendu en raison de la sévérité de ses crimes contre le régime, surtout pour son rôle dans la vague de contestation. C'était à l'hiver 2018. Au mois d'octobre de l'année dernière, nous avions déjà parlé dans cette émission des circonstances de son arrestation. Ali Reza, pour rafraîchir nos mémoires, parlez-nous un peu de son parcours.
Oui, c'était 3 ou 4 jours après son arrestation, ou plutôt de son kidnapping en Irak, que nous avons eu l'occasion d'en parler. Ce malheureux avait dirigé un canal sur Telegram intitulé Ahmad News, qui a été d'ailleurs fermé en 2018 par Telegram à la demande des autorités iraniennes. Il était réfugié politique en France et bénéficiait apparemment d'une protection particulière. Il prônait la violence lors des manifestations de décembre 2017.
Alors c'est pour cette raison qu'il a été kidnappé et emmené en Iran ?
Entre autres, il a été accusé par les gardiens de la Révolution d'avoir propagé des mensonges pour inciter les jeunes à des activités violentes et susciter des émeutes dans le pays. N'oublions pas que son canal sur Telegram comptait à sa fermeture près d'1 400 000 abonnés. En fait, son père est un mollah réformiste. Il était proche des réformateurs et avait même occupé dans les années 90 des positions élevées au gouvernement. C'est pour cette raison que Ruhollah Zam connaissait plus ou moins les rouages du système. Les informations secrètes qu'il divulguait provenaient sans doute de réseaux au sein du pouvoir. Il donnait des renseignements sur les dignitaires et la corruption au sein du régime, en particulier à l'intérieur du pouvoir judiciaire. Il y a eu plusieurs hypothèses sur les circonstances de son arrestation, mais la plus communément admise est qu'une jeune femme l'aurait convaincu d'aller en Irak rencontrer l'ayatollah Sistani, grand rival du guide suprême. Ce serait dans la ville sainte de Najaf qu'il aurait été arrêté et conduit en Iran par les gardiens de la Révolution.
Alors, de nombreux pays, notamment des pays occidentaux, ont fermement condamné son exécution. Certains même ont pris des mesures punitives à l'encontre de l'Iran. Cela peut-il adoucir, Ali Reza, un peu la sévérité de la répression des opposants ?
Il est certain que son exécution a suscité un tollé mondial. Mais pour répondre à votre question, je préfère vous faire écouter Karim Lahiji, président de la Ligue iranienne des droits de l'homme et président d'honneur de la Fédération internationale des droits de l'homme. Écoutons ce qu'il dit à ce sujet dans un entretien avec France 24.
Est-ce que les pressions internationales, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur les autorités iraniennes ou est-ce qu'elles sont vaines ?
Je vous dirais plutôt vaine parce que pour la République islamique, en ce qui concerne surtout les dissidents, l'opposition. L'exécution, c'est un signe fort de l'autorité de l'État.
Alors, quelles ont été les réactions des opposants iraniens à l'étranger suite à son exécution ?
En fait, la condamnation de son exécution est certes unanime, mais en suivant les réseaux sociaux iraniens, on s'aperçoit que certains opposants ont du mal à lui pardonner son appartenance à une famille qui a eu des liens, du moins pendant un certain temps, avec le pouvoir.
Et puis enfin, juste un dernier mot, il n'y a donc pas de consensus sur la condamnation de la répression atroce du régime contre ses opposants.
Tout à fait. En fait, il faut reconnaître que le fait de voir derrière chaque acte répressif, même criminel du régime, une machination contre l'opposition, relève de la paranoïa. Je ne sais d'ailleurs pas s'il y a vraiment une opposition structurée capable de défier sérieusement le régime des Mollahs. En fait, il y a parmi les opposants iraniens des hommes et des femmes compétents et responsables, mais le problème est qu'il y a justement trop de problèmes afin qu'ils puissent s'entendre sur l'essentiel.
Ali Reza Manavzadeh de la rédaction en persan. Et puis tout autre sujet à l'autre bout de la planète, au Brésil, c'est la course au vaccin contre le Covid qui fait polémique. Pendant que le monde entier attend à son tour pour se faire vacciner, eh bien au Brésil, le président Jair Bolsonaro se déclare anti-vaccin, Lucia Musel.
Eh oui, c'est un énorme paradoxe. Le même gouvernement qui a refusé d'adopter toutes sortes de confinements pour réduire la propagation du virus, supposément pour protéger l'économie, maintenant hésite à afficher son soutien à la vaccination. Le vaccin est pourtant pointé comme la solution la plus efficace pour stopper la pandémie, selon les scientifiques. Cette semaine, après plusieurs jours de va-et-vient sur cette question, le président brésilien a fini par dire que non, il ne prendra pas le vaccin contre le Covid, qu'il suspecte de ne pas être encore assez fiable. Comme d'habitude, il a sorti des blagues en disant que, je cite, qu'on ne sait pas si on peut se transformer en crocodile si on prend ce vaccin. Bolsonaro a aussi évoqué le fait qu'il a déjà eu le coronavirus cette année et aurait donc des anticorps. Le monde scientifique n'est pourtant pas sûr que toutes les personnes développent des anticorps, ni pour combien de temps. Bref, après les répercussions négatives, très négatives de ses déclarations, il a enfin annoncé un plan assez vague de l'immunisation de la population brésilienne.
Alors justement, faute d'action du gouvernement fédéral, la Cour suprême au Brésil s'est emparée du sujet. Qu'a-t-elle dit ?
Avec une large majorité, la justice brésilienne a décidé que le vaccin contre le Covid sera obligatoire au Brésil, mais on ne sera pas contraint de le faire, c'est-à-dire qu'on ne forcera personne à se faire immuniser, mais ceux qui ne le feront pas pourront devoir subir les conséquences, par exemple être empêchés de prendre un vol. Cette polémique arrive à un moment où un nouveau pic de contamination touche le Brésil avec plus de 1000 morts par jour à l'approche des fêtes, de la fin de l'année, de l'été aussi, et bientôt le carnaval au Brésil, vous connaissez. La situation s'annonce très inquiétante les semaines à venir. En plus, les bienfaits de la vaccination n'arriveront pas tout de suite, comme nous a expliqué l'économiste de la santé Frederico Guanais de l'OCDE.
Nos países da OCDE, mesmo nos melhores cenários, a perspectiva de...
Il dit que dans le pays de l'OCDE, dans les meilleurs des cas, et si tout se passe bien, on devra encore attendre de 6 à 8 mois avant de sentir les effets de la vaccination sur l'économie et la vie sociale. Concernant le Brésil, il remarque que le pays aurait la capacité de produire localement un vaccin en s'associant avec un grand laboratoire international. Cependant, ce spécialiste de l'OCDE déplore les choix pas très clair du gouvernement brésilien sur cette question.
Merci beaucoup. Nous serions bien restés encore plus longtemps pour vous entendre décortiquer comme ça l'actualité mondiale. C'est la fin d'Accent du Monde, réalisé ce soir par Laurent Philippot. Merci à tous les trois pour vos contributions. Lucia Musel de la rédaction en brésilien, Ali Reza Manavzadeh de la rédaction en persan, Ania Stroganova de la rédaction russe. Accent du Monde, des sujets sur Radio France Internationale et nulle part ailleurs. À suivre sur votre radio, le journal.